Bonjour à toutes et à tous. Pour notre étude ce matin, nous allons prendre dans le livre de, dans l'épître de Colossiens, épître aux Colossiens. L'épître de Paul, apôtre Paul aux Colossiens. Les épîtres aux Colossiens et Éphésiens et Philémon ont été écrits presque en même temps et dans la même circonstance. Nous comprenons et en voyant le thème qui chevauche ces épîtres et le nom et les noms personnels que l'apôtre fait mention dans ces épîtres. Plusieurs choses dans ces épîtres nous mettent en évidence que l'apôtre Paul a écrit ces épîtres pendant son premier emprisonnement à Rome. Epaphras est venu rejoindre Paul dans sa prison pour l'informer des difficultés survenues dans son église suite à la prédication d'une fausse doctrine. Nous voyons ça dans Philémon, verset 23. L'apôtre Paul donc répond à sa demande en écrivant deux lettres pour l'église d'Éphèse et celle de Colosse, et confie ces deux épîtres à Tychique, qui retourne à Colosse avec Onésime, l'esclave fugitif. L'église de Colosse n'a pas été fondée par l'apôtre Paul. Elle fut le fruit indirect de ses trois années d'activité apostolique à Éphèse, où Epaphras et Philémon ont dû faire sa connaissance et se convertir. Ils sont retournés ensuite dans leur ville et y ont fondé une église composée essentiellement d'anciens païens qui se réunissaient dans la maison de Philémon. Si nous devons donner un titre aux épîtres aux Éphésiens, on peut dire l'Église de Christ. Et si nous devrions donner un titre pour l'Épître aux Colossiens, nous devrions donner le Christ de l'Église. Je ne sais pas si aujourd'hui nous pouvons parler de Christ sans parler de son Église. Ou parler de l'Église sans parler de Christ, Jésus-Christ. Les deux sont liés et c'est pourquoi la Bible nous parle de cette image d'un corps inséparable. En Colossiens 1:18, lisons, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Aujourd'hui, nous allons voir sur l'Église de Christ, l'Église que Christ aima et s'est livré lui-même pour elle. Très souvent, lorsque nous parlons de l'Église, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'idées fausses à ce sujet. Immédiatement, nous le prenons pour un bâtiment. Quand on parle de l'Église, nous le prenons pour un bâtiment, grand ou petit dans sa taille. Le nom de l'Église vient à notre mémoire. Le nom du pasteur ou d'une personnalité qui fréquente l'Église et parfois même la couleur des personnes fréquentant l'Église ou son emplacement ou l'ethnicité. Mais l'Église de Christ dont la parole de Dieu nous parle n'est rien de tout cela. C'est une assemblée de chrétiens qui vit d'une manière avec Jésus-Christ comme chef. Ce sont des membres d'un même corps, ils appartiennent les uns aux autres et appartiennent tous à Christ. Bien qu'ils soient dans le monde, ils ne sont pas du monde. L'Église qui est le corps de Christ doit être dans le monde pour une raison, pour être le sel de la terre, la lumière pour le monde. L'Église de Christ est la vitrine de l'amour de Dieu et une fenêtre vers le ciel. L'Église de Christ est sainte, sanctifiée par le sang de Jésus, lavée par le sang de l'agneau, appelée de ce monde, séparée de ce monde pour vivre pour Christ, parler pour Christ, pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ, le Seigneur. Mais merveilleuses sont les voies de notre Dieu glorieux qui bâtit son Église avec les pécheurs pardonnés comme vous et moi. En 1 Corinthiens 6, 9 à 11, vous pouvez prendre avec moi, 1 Corinthiens, le premier épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 11, nous allons lire. 1 Corinthiens 6, à partir de verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infamés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et quand on dit que l'Église est composée de pécheurs pardonnés, nous étions de tels. Donc, dans l'Épître aux Colossiens, nous allons voir le chapitre 4. Nous n'allons pas voir tout ce chapitre, mais quelques versets, à partir de verset 8. Colossiens 4. On va lire à partir de verset 8. Colossiens 4, 8. Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Verset 9. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qu'il se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont de nombre de circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Verset 12, Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hierapolis. Verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Salue les frères qui sont à Laodicée et Nymphas, et l'église qui est dans la maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens, et que vous lisiez à votre tour qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Agrippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Ça, c'est un passage qui, plutôt, il y a des salutations de l'apôtre Paul. Dans cette dernière partie de l'épître aux Colossiens, nous voyons que Paul est en train de conclure son épître avec les salutations. Dans le monde d'aujourd'hui, personne n'écrit de lettres, personne n'a le temps. Nous vivons dans un monde de textos. Bien que nous vivions tous dans un monde de 24 heures par jour, comme l'apôtre Paul, on pense que si vous allez rencontrer les gens, on va dire que je n'ai pas le temps. Mais l'apôtre Paul et ses chrétiens de première église, ils avaient la même 24 heures comme nous. Je pense que, en quelque sorte, nous avons perdu la qualité de notre temps dans nos vies. On a la même quantité de temps, mais nous avons perdu la qualité de temps. Je voulais dire que la manière que nous utilisons notre temps est mauvaise. Lorsque nous parlons de l'Église, le corps de Christ, évidemment, nous parlons de l'œuvre de Dieu, ce qu'il a accompli jusqu'à présent et ce qu'il a fait aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui. Nous sommes ici pour parler de Dieu et de son œuvre. Il n'y a rien à parler de nous-mêmes, quoi qu'il se trouve, même s'il y a un président de la République parmi nous. Tout le corps est fait d'une manière à glorifier la tête. Oui, nous parlons et prêchons Christ crucifié, de ce Christ enseveli et ressuscité. Nous parlons et nous prêchons ici Jésus-Christ glorifié. Bien que l'apôtre Paul n'ait jamais fondé cette église à Colosse, n'a jamais visité cette église de Colosse, si jamais il n'avait pas écrit cet épître aux Colosses, le nom de cette ville de Colosse n'aurait jamais trouvé mention dans la parole de Dieu. Nous n'aurons rien connu de ces chrétiens qui se trouvaient à Colosse. Loué soit Dieu, notre Père, pour ses œuvres. Parmi les choses cachées dans la parole de Dieu, je trouve ce mystère que Dieu parfois fait mention du nom de certains de ses serviteurs et parfois non. Mais dans le texte que nous avons devant nous ce matin, nous trouvons les noms de quelques serviteurs, qu'ils soient connus ou pas. Il y a à peu près 8 ou 10 noms qu'on trouve dans ces 11 versets. Et nous connaissons ce verset en Isaïe 49:15. Moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Êtes-vous un serviteur inconnu dans l'Église de Christ? Dieu vous connaît. Regardons ensemble le texte dans l'Épître aux Colossiens 4:8. Le premier verset, Tychique est le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur. Paul dit que vous communiquera tout ce qu'il me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Parmi les noms de plusieurs personnes mentionnées par Paul dans ce passage, nous voyons un homme qui s'appelle Tychique. Nous trouvons un frère bien-aimé en Christ. Un frère bien-aimé en Christ. Deuxièmement, nous trouvons aussi un serviteur fidèle, un compagnon de service dans le Seigneur. Autrement dit, un collègue de travail dans le service de Dieu. Troisièmement, nous voyons un messager ou ambassadeur de Paul qui se trouve dans la prison. Un messager. Ensuite, nous trouvons qu'un serviteur qui a à cœur les œuvres de Dieu dans son église. C'est un serviteur de Dieu qui a à cœur les œuvres de Dieu dans son église. Et ensuite, nous trouvons que c'est un frère qui peut comprendre la situation des autres chrétiens. Et enfin, nous trouvons un homme de Dieu qui a cette qualité en lui de consoler les cœurs des enfants de Dieu. Il a cette grande qualité de pouvoir consoler les cœurs des enfants de Dieu. Quel homme de Dieu! Quelle qualité chrétienne! Quel serviteur! Quel compliment Paul fait à cet homme! Tychique, le bien-aimé frère, en Christ nous sommes tous frères et sœurs. Oui, nous sommes des enfants de notre Père Céleste. Et chaque fois que vous vous adressez à quelqu'un comme frère et sœur, avons-nous ce sentiment dans notre cœur ou bien prononçons-nous ces mots comme un jargon chrétien? Quand on appelle quelqu'un frère ou sœur, est-ce que nous prononçons léger, avec une légèreté, avec un certain automatisme, ou nous réfléchissons vraiment à ce que ça signifie quand on appelle quelqu'un frère et quelqu'un sœur? Nous avons un seul Père, notre Père Céleste. Trouverons-nous un bien-aimé frère comme Sijik dans notre église, dans notre assemblée? Si vous pensez que non, la question est êtes-vous un frère bien-aimé comme Sijik? Mais si vous pensez qu'on n'a pas une telle personne dans notre église, et est-ce que nous sommes un frère ou une sœur bien-aimée dans le Seigneur pour des autres? Oui, je pense, avant d'être un serviteur de Dieu, il faut être un frère bien-aimé dans l'église de Jésus-Christ. On peut être un serviteur de Dieu, mais premièrement, est-ce que nous sommes un frère ou une sœur bien-aimée en Jésus-Christ, dans l'église de Christ? Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ce ne me sert de rien. Oh, combien cela est vrai. Le bien-aimé frère Tichik. Par la façon dont l'apôtre Paul parle de Tichik, nous comprenons quel type de chrétien était Tichik. Il désirait être avec Paul, peu importe les circonstances. Quel amour fraternel pour la cause de Christ son sauveur. Mais souvent nous parlons de l'amour fraternel, mais notre amour peut aller jusqu'où? Jusqu'aux prisons? Est-ce que ça peut aller jusqu'à la difficulté de quelqu'un? La situation difficile de quelqu'un? Quand tout semble être contre nous, combien notre cœur cherche pour un frère ou une sœur en Christ? Ça nous arrive à tous, n'est-ce pas? On peut être au milieu de notre assemblée, dans une réunion fraternelle, communion fraternelle, mais pourtant nous pouvons être seuls. Nous pouvons souffrir de solitude. Et combien nous désirons d'avoir un frère ou une sœur bien-aimé en Christ. Un serviteur fidèle. Deuxièmement, nous voyons qu'il était un serviteur fidèle. L'apôtre Paul décrit Tichik comme un serviteur fidèle. Nous trouverons les serviteurs, mais peu de serviteurs fidèles. Le serviteur qui persévère avec fidélité. Tichik était un serviteur fidèle. On peut être fidèle à quelqu'un seulement quand on est fidèle au Seigneur. On ne peut pas être fidèle à quelqu'un, mais ne pas. Si nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Nous trouvons ce caractère par les choses qu'il a fait. Nous ne voyons jamais Sijik dire un mot dans ce passage, ou d'ailleurs. Il ne discutait pas la théologie, ni les choses de la doctrine, mais il accomplit les choses qui lui ont été confiées à un serviteur fidèle. Et c'est Paul qui dit cela sur lui. Ce n'est pas quelqu'un qui prêchait, ce n'est pas quelqu'un qui parlait de la théologie, qui parlait de la doctrine, mais son qualité était être un serviteur fidèle. Son ministère était auprès de l'apôtre Paul qui se trouvait dans la prison. Il a partagé le ministère de l'apôtre Paul et lui rendu assistance dans tous les manière, dans toutes les manières possibles. Quelqu'un dit ainsi, la plus grande chose que l'on peut faire est d'être fidèle. La plus grande chose qu'on peut faire est d'être fidèle. Grand est le besoin dans l'Église de Jésus-Christ pour des serviteurs fidèles. Un serviteur fidèle est souvent caché comme un organe qui se trouve dans la partie intérieure de notre corps. Ce qu'il fait n'est jamais vu à l'extérieur, mais son fonctionnement est vital. Le corps ne peut vivre sans lui. Il ne réclame pas de la reconnaissance de son service. Il prend ses ordres au chef, la tête, et rend ses comptes qu'à lui seul. Je rends grâce à Dieu pour cette illustration du corps humain qui explique le fonctionnement de l'Église de Dieu, notre Sauveur. Paul avait une confiance totale en Sichi. Il savait que certainement il ferait ce qui lui a été dit. Trouvons-nous le serviteur fidèle comme Sichi dans l'Église de Christ? Sommes-nous des serviteurs fidèles comme lui? La Bible parle de Moïse. Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Nous avons cette parabole où son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confie beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Si nous ne sommes pas fidèles en peu de choses, comment espérer que Dieu nous confie des grandes choses de son royaume? Sommes-nous frères et sœurs des serviteurs fidèles comme cet homme Tichik? Et troisièmement, nous voyons que sur cet homme, la qualité de cet homme, qu'il était un compagnon de service dans le Seigneur. Il était un compagnon de service dans le Seigneur. L'apôtre Paul envoie Tichik à Colosse. C'est un envoyé spécial de Paul avec une mission, celui de visiter l'église, les chrétiens de Colosse. Mais quand nous connaissons la position de l'apôtre Paul, nous sommes impressionnés de la façon dont Paul décrit ce mini-serviteur comme un compagnon de service dans le Seigneur. C'est facile d'imaginer Paul avec Apollos ou avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean ou les autres. Mais nous trouvons Paul qui trouve comme compagnon de service avec Tichik. Un collègue de travail incroyable. Même quand nous avons passé un grand nombre des années dans une église, nous continuons à penser que nous sommes des croyants, des chrétiens, des disciples, les sauvés. Tout ce que je dis est vrai. Mais nous sommes des serviteurs, premièrement. Nous sommes des serviteurs de Dieu, premièrement. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Pas seulement les anciens et les diacres. Nous n'avons pas besoin de porter un titre ou un badge pour être un serviteur. Non, nous n'avons-nous pas été appelés pour servir. Nous étions appelés pour servir le Seigneur. Jésus lui-même dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme le rançon de plusieurs. Sommes-nous, mes frères et sœurs, plus grands que notre maître? Un serviteur de Dieu devrait être reconnu par l'amour de Dieu qu'il a dans son cœur. Pas par la manière qu'il bouge. Il y a des personnes qui peuvent penser que s'asseoir dans un banc de l'église pour écouter les prédications et de chanter des cantiques, assister à un culte une fois par semaine, et rendre un service à Dieu. Ils n'ont rien compris du message glorieux de l'évangile de Jésus-Christ. Voulez-vous être un serviteur de Dieu? Demandez Dieu qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Voulez-vous être un serviteur de Dieu? Demandez à vous-même si vous avez une disposition de votre cœur. Voulez-vous être un serviteur de Dieu? Demandez vous-même si vous allez obéir Dieu sans aucune réserve. Quand on parle d'Abraham, Abraham est parti sans savoir où il allait. Il est parti pour sacrifier son fils unique, Isaac, quand Dieu lui demanda de faire. Dieu veut que notre bien, soyons rassurés de cela. Mais la question est que, êtes-vous un serviteur de Dieu dans votre cœur? Sommes-nous des serviteurs de Dieu dans nos cœurs? Et Paul la traite Sichik comme un collègue, un co-ouvrier dans son ministère pour Dieu. Les deux travaillent pour le même maître. Même si la nature de leur travail n'était pas la même, ils étaient co-ouvriers en Christ. Nous sommes tous les co-ouvriers pour Jésus, notre Sauveur. Dans le corps du Christ, il n'y a pas de chômeur. S'il y a un organe qui chôme dans le corps, tout le corps souffre et il sera malade. La bonne santé d'une église est déterminée par la bonne santé de tous ses membres. Regardons ensemble la pensée de l'apôtre Paul dans ce sujet. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Une belle image de la service pour notre Seigneur au sein de l'Église. Un serviteur dans le pupitre sert le même maître comme celui qui passe le serpillard dans la toilette. Soyons fiers de notre service pour notre Seigneur qui nous a tant donné. Notre travail prend la valeur, pas dans les choses que nous faisons, mais par le fait que pour qui nous travaillons. Gardons dans nos cœurs que c'est le travail de Dieu et nous sommes des co-ouvriers avec Dieu. Quel honneur servir Christ le Seigneur. Et plus tard, nous voyons que Paul envoie Tychik à l'île de Crète et aussi à Éphèse. Et maintenant, Paul est là, Tychik avec lui, donc il l'envoie à Colosse avec ses épîtres. Mais plus tard, nous voyons dans le livre de Tite et dans 2 Timothée qu'il envoie Tychik à l'île de Crète et aussi à Éphèse. Mais maintenant, dans notre texte, Tychik est envoyé avec Onésime. Regardons le verset 9. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Donc, Paul, il envoie ses deux serviteurs de Dieu à aller voir des chrétiens qui se trouvent dans l'église de Colosse. Quand on parle d'église de Colosse, c'était dans les maisons. Ils réunissaient dans la maison, ils n'étaient pas très nombreux, j'imagine. Mais il envoie deux personnes. Il y a Tychik, que nous avons vu maintenant, et aussi Onésime. Quand on parle d'Onésime, on voit l'image d'Onésime bien dans l'épître au Philémon. Et c'est trois épîtres pour les envois, par les mains d'Onésime et Tychik. Onésime, c'était un fugitif qui a quitté, un esclave qui a quitté son maître. Il est maintenant un nouveau converti, un nouveau chrétien, qui n'est pas chrétien depuis longtemps. Mais regardez dans quelle manière Paul il parle d'Onésime. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé. Donc il n'y a pas de distinction. Quand on est dans le service de Dieu, quand nous appartenons au corps de Christ, nous avons une valeur en Jésus-Christ. Onésime, qui a mal fait les choses, qui a mal dirigé sa vie, finalement se trouve en Jésus-Christ. Et maintenant, c'est un envoyé spécial d'apôtre Paul. Il envoie quand même un exemple, un modèle, un chrétien modèle. Il envoie Onésime en disant que c'est un frère fidèle. Mais il était infidèle, n'est-ce pas, à son maître. Et pas longtemps, il était infidèle. Mais Paul, quand quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle création. Et on ne peut pas parler des choses de leur passé. On ne peut pas parler. Lui, je connais, il était comme ça. On n'a pas le droit de parler. Est-ce que nous, dans l'Église de Christ, nous avons cette habitude de donner le compliment à nos frères et sœurs? Des compliments qui peuvent les encourager. Est-ce que nous avons une parole qui peut les blesser? Nous utilisons ce don de parole pour les casser. Mais Paul, c'est un exemple ici. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé. Peu importe le passé, Paul, il emploie ce terme, il est bien-aimé. Nous n'étions pas des aimables, même dans le monde. Mais avec Christ, nous sommes des bien-aimés. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé, qui est dans le vôtre, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Mais en fait, Onésime, il était avec Philémon qui se trouve à Colosse. Et Onésime, il a quitté son maître. Il est parti à Rome. Donc, il a fait connaissance avec Paul. Il se convertit. Maintenant, Paul, il l'envoie vers son maître, vers Philémon, puisqu'il peut être réconcilié avec lui. Donc, Paul, il envoie ses compliments sur Onésime. Mais, normalement, ces personnes devraient passer inaperçues. Mais, dans l'Église de Christ, dans le corps de Christ, personne ne devrait être ainsi. Et nous avons chacun une identité avec Christ. Peut-être que nous avions notre identité quand nous n'étions pas avec Christ. Mais maintenant, en Christ, nous avons une autre identité. Nous appartenons à Christ, chacun. Verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-les. Ici, on parle d'Aristarque, mon compagnon de captivité. Et Paul, il était en captivité, il était dans une prison, dans une maison à Rome. Et Aristarque, il était un compagnon, Paul l'appelle un compagnon de captivité. Et dans une manière ou de l'autre, nous sommes en captivité pour Christ dans ce monde. Et est-ce que nous avons les compagnons comme Aristarque? Est-ce que nous avons les compagnons comme Aristarque? Et une autre personne, Marc, qui est le cousin de Barnabas, au sujet que vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-les. Et Paul il demande ses chrétiens d'accueillir Marc. Marc, il a échoué dans sa mission. Et à un moment donné, Marc, il a quitté Paul. et Paul il n'était pas pour prendre Barnabas. Et donc Marc il avait fait faillite, il a échoué dans sa mission. Mais Paul il le prend encore comme un compagnon, comme un serviteur de Dieu. Et nous n'étions pas tous parfaits dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. Nous tombons parfois, nous détournons parfois. Mais comment nous allons revenir, et est-ce que nous trouvons une famille en Christ, dans l'Église de Christ, pour nous accueillir, pour nous prendre comme un frère? Et aussi dans le verset 11, Jésus appelé Justus vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Et encore une personne qui s'appelle Jésus, mais à l'époque il y avait beaucoup de personnes qui s'appelaient Jésus. Même aujourd'hui dans certains pays, on trouve ces prénoms qui est l'équivalent de Josué. Et Jésus, appelé Justus, et Paul il parle de cet homme en tant que qui travaille avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Et dans l'Église, nous sommes appelés pour travailler ensemble. Nous sommes dans le service de Dieu et nous sommes appelés pour travailler ensemble. Et souvent, ce n'est pas très facile, mais si nous avons nos yeux fixés sur notre maître, nous devrions travailler ensemble. Et il parle de lui comme une consolation. Ce frère, Jésus, c'est un qui ont été pour moi une consolation. Et Marc et Jésus. Et nous trouvons encore un homme, s'appelle Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, et il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Epaphras, c'est un des responsables de cette église à Colosse. Et Paul, il dit de lui qu'il est des vôtres, il vous salue, c'est un serviteur de Jésus-Christ. Mais quel autre compliment est meilleur que celui-ci? Il dit que c'est un serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, mais c'est une autre qualité que nous trouvons ici. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Et la question c'est, est-ce que nous prions pour nos frères et sœurs, au moins au sein de notre église, dans notre assemblée? Est-ce que nous prions, est-ce que nous identifions les faiblesses ou les problèmes, les situations difficiles que les gens peuvent traverser? Et est-ce que nous prions pour eux? Et ce frère, cet homme, Epaphras, qui combat pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon. Il y a beaucoup de victoires et on dit que beaucoup de victoires est gagnée sur les genoux. Et nous avons cette image de Moïse qui devrait garder les mains levées quand Israël devrait combattre ses ennemis. Et ça, c'est des images de prière. Afin que, verset 12, Epaphras, qui est de vôtre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon. Mais si nous avons parvenu à une tentation, une difficulté, nous devrions penser qu'il y a des frères et sœurs qui sont priés pour nous. Mais plusieurs fois, moi, j'ai rencontré cette situation où il y a des gens qui m'ont dit que je priais pour toi. Et je pense que nous avons tous cette expérience afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Et ça, c'est l'Église de Christ. Ça, c'est l'Église de Christ. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous. Il parle d'Epaphras, verset 13. Pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiéropolis, Laodicée et Hiéropolis, c'est des villes à côté, pas loin de Colosse. Et donc, cet homme, il prie pour des chrétiens dans ses églises. Nous avons un devoir de prier pour des chrétiens dans nos églises, dans notre église et dans nos églises. Combien nous prions pour l'église à Sarcelles, que Dieu fait son œuvre dans cette région, que les âmes soient converties et tournent vers lui. Le verset 14, Luc le médecin, bien-aimé, vous salue, ainsi que Demas. On parle de Luc, le médecin, bien-aimé. Ici, nous voyons deux personnes mentionnées, Marc et Luc, qui ont écrit l'évangile. Luc l'a écrit l'évangile plus tard. Et médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Demas. Nous voyons l'amour chrétien dans ces versets. Combien les chrétiens, ils montrent un amour pour des autres frères et sœurs, même s'ils sont loin, même qu'ils n'ont jamais vu leur visage. Ils envoient leur salutation avec beaucoup d'amour. Et un autre homme, mentionne un autre homme, à la fin de verset 14, c'est Demas. Et nous savons que Paul, il parle de lui plus tard, que Demas lui a abandonné pour le bien du monde. Demas, il a abandonné le service de Dieu pour le bien, pour l'amour, pour l'argent. Même si on trouve ce nom ici, mais en ce moment, il était avec Paul. Le verset 15, saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée et que vous lisiez à votre tour, celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main, souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Alors, ce que nous voyons dans ce passage de quelques versets, nous voyons que l'Église de Dieu est formée par toutes sortes de personnes. L'Église, dans l'Église, il n'y a pas que d'Abraham, il n'y a pas que de Moïse, il n'y a pas que de Joseph, il n'y a pas que de parfaits. Mais c'est l'Église de Dieu, eh bien, avec des personnes faibles comme vous et moi. On trouve Damas, on trouve Marc, on trouve des autres personnes avec leurs faiblesses. Même l'apôtre Paul, nous connaissons son passé. Comment il était un ennemi de Dieu, ennemi de l'Église, persécuteur de l'Église. Mais Dieu l'a fait un miracle de cet homme. Il a utilisé avec puissance ce serviteur de Dieu. Donc, quand nous lisons ce passage, nous prenons courage que Dieu, il utilise chacun de ses serviteurs d'une manière unique. Il a un ministère pour chacun d'entre nous ici. Et personne ne doit être délaissé. Et ce qui est important, c'est avoir cette qualité comme cet homme psychique qui avait. Être un frère ou sœur bien-aimé en Christ. Être un frère ou une sœur bien-aimée en Christ. Être un serviteur fidèle, un compagnon de service dans le Seigneur, un messager un messager qui amène la bonne nouvelle, qui amène la bonne nouvelle. Nous avons ce ministère de la parole, d'encourager les autres, de consoler les autres. Mais souvent, nous utilisons la langue pour, bien souvent, c'est pour de mauvaises choses. Mais nous, ça devrait être notre prière que Dieu utilise, nous aide à utiliser notre langue pour consoler, pour conforter les autres frères et sœurs. Et pour être un frère ou sœur qui peut comprendre la situation des autres chrétiens, des difficultés, les problèmes des autres chrétiens. Être un homme de Dieu, une femme de Dieu qui a cette qualité de consoler les cœurs des enfants de Dieu. Que Dieu nous aide pour appliquer ces choses que nous avons vues dans ce passage dans notre vie pratique. Prions.